Matière à penser, Dominique Rousset.
Bienvenue, bonsoir à tous. Nous commençons une nouvelle série. Environnement qu'il est dur de convaincre. Nouvelle série partant du constat désormais indéniable de la dégradation des conditions climatiques, du rôle actif et croissant des activités humaines dans ce processus et des risques encourus dans un avenir maintenant très proche. Faisant état aussi d'une certaine perplexité, voire du découragement des spécialistes devant les résistances opposées aux décisions qu'il faudrait prendre tout de suite. Et saluant enfin les raisons d'espérer, il y en a encore. Nous les verrons. Nous entendrons donc Amy Dahan, historienne des sciences sur l'état des négociations internationales sur le climat. Puis Philippe Buix, un ingénieur contre le technosolutionnisme béat, dit-il. Puis Cécile Renoir, une philosophe du côté de l'éthique des entreprises. Et enfin, François Gemène, un politologue à l'ère de l'anthropocène. Et ce soir, c'est un climatologue que nous accueillons avec un grand plaisir, et glaciologue également. Il a été vice-président du groupe scientifique du GIEC, le groupement international sur les experts du climat, également membre de l'Académie des sciences, de l'Académie d'agriculture. Et j'en passe. Votre titre que vous avez choisi, Jean Jouzel, Climat et effet de serre, une relation de 800 000 ans. Bonsoir.
Bonsoir Dominique Rousset.
Né dans une famille d'agriculteurs bretons, je le dis tout de suite, on y reviendra, ça a sa petite importance. Vos études, d'ailleurs, votre formation n'était pas sur la neige ni la glace, hein, j'ai dit que vous étiez glaciologue, mais sur la formation des grelons, c'était le sujet de votre thèse. Et puis, il y a eu cette révolution des perspectives du réchauffement en 20 ans, aux côtés de votre maître, donc dès les années 70, votre maître et ami, compagnon de recherche, Claude Lorius. L'occasion peut-être de lui rendre un petit hommage.
Bien sûr, je suis arrivé... Après des études à Lyon, je suis arrivé à Saclay, au commissariat à l'énergie atomique, en 1968, et j'y suis toujours. Et là, Étienne Roth me propose une thèse sur la formation de la grêle. C'est quand même de la glace, hein, la grêle, il faut bien comprendre. Et puis, en gros, l'idée qui est celle aussi de l'étude des glaces, c'est que la composition de la glace, des neiges, dépend de leur température de formation. Alors, dans le cas d'un grêlon, évidemment, la température varie avec l'altitude de formation des couches. Et c'est ce qu'on me propose de faire, Étienne Roth. Donc voilà, un laboratoire extrêmement chaleureux. Et dès début 69, eh bien, Claude Lorius revient, lui, de l'Antarctique. Il ramène des échantillons puisqu'il n'avait pas de laboratoire. Et une de ses approches qu'il avait mises au point, c'était d'analyser aussi la composition isotopique de la neige, comme je le faisais pour la grêle, et d'en déduire des informations sur ce qui se passait en Antarctique. C'était le tout début, et je dirais que d'un côté, nous avons, je crois qu'une amitié est née. Nous étions tous les deux aussi très passionnés de football, par exemple. Claude a été... ça crée des liens. Et puis naturellement, eh bien, j'ai partagé à un moment dans les années 70 mon temps entre l'étude de la formation de la grêle et celle des, disons, des glaces polaires. Et puis, petit à petit, je me suis orienté plus vers les aspects climat du passé.
Amateur de foot, mais vous ne précisez pas que vous avez obtenu tous les deux la médaille d'or du CNRS.
C'était un peu plus loin.
En 2002, un peu plus tard. Ce qui est très important dans ce que vous avez fait avec lui, et vous n'étiez pas seul, bien sûr, il y avait des chercheurs d'autres pays, des Russes notamment. Et vous alliez donc chercher des carottes de glace que vous analysiez et qui ont renversé un peu l'approche, puisque on se croyait plutôt dans une perspective de glaciation et pas du tout de réchauffement.
Oui, c'est intéressant parce que dans les années 70, en fait, nous sommes dans une période où il n'y a pratiquement pas de réchauffement entre les années 60 et 70, même un léger refroidissement depuis les années 40. Et en fait, notre période, nous sommes dans une période qu'on qualifie d'interglaciaire, c'est-à-dire que si on regarde l'histoire du climat sur le dernier million d'années, il y a des périodes très froides qui durent longtemps, au moins les dernières, de l'ordre de 100 000 ans, et puis des périodes chaudes, enfin relativement chaudes, qui ne durent qu'une dizaine de milliers d'années. Or, la période dans laquelle nous sommes durait effectivement depuis 10 000 ans, et on se posait la question, mais ça va être la prochaine période glaciaire. Alors, pourquoi n'est-ce pas le cas? On me pose souvent, eh bien, tout simplement, on a de la chance, parce que nos civilisations se sont développées au bon moment, en ce sens que la période interglaciaire dans laquelle nous vivons devrait naturellement durer au moins 25 000 ans. Pourquoi? Simplement parce que l'orbite terrestre est une ellipse dont l'excentricité est variable, donc elle est plus ou moins elliptique. C'est pratiquement un cercle, donc une orbite circulaire, eh bien, il y a peu de variations d'insolation, et dans ces cas-là, les périodes chaudes durent plutôt. C'est dur de passer en période glaciaire, c'était le cas il y a 400 000 ans, c'est le cas aujourd'hui, et bien, c'est bien que notre civilisation se soit développée dans ce contexte d'une période chaude relativement longue. Et effectivement, donc, le problème d'aujourd'hui, ce n'est pas le passage à la prochaine période glaciaire, mais bien celui de nos activités.
Et surtout de la vitesse à laquelle vont les choses, on va développer cela. Vous avez donc des travaux qui ont été très reconnus à l'Antarctique, le Groenland également, qui ont permis de connaître le climat terrestre passé. On arrive à peu près à le dater, même si c'est pas toujours si simple que ça, la neige peut se tasser.
Oui, c'est même compliqué, disons.
Même beaucoup plus compliqué, sûrement.
Voilà, donc nous en discutons toujours. J'étais récemment à Grenoble pour une journée où beaucoup de la discussion a porté sur un forage plus ancien, bah, si possible, la possibilité d'aller au-delà d'un million d'années, et il y a aussi beaucoup de problèmes de datation. Alors, peut-être un peu d'histoire. En fait, il y a quand même deux étapes marquantes, en tout cas pour ce qui concerne l'Antarctique. La première étape, c'est cette magnifique aventure de Vostok. Pour reprendre un peu le fil assez rapidement, Claude Lorius, dans les années, lui, crée une section, disons, de glaciologie polaire dans un laboratoire de Grenoble. Il recrute des jeunes, et puis il entraîne des gens comme Dominique Reynaud, comme Robert Delmas, Jean-Marc Barnola, Jean-Robert Petit, Jérôme Chaplaz, et nous partons dans cette aventure du forage de Vostok tous ensemble. Voilà, aussi avec des thésards comme Christophe Janton, et grâce à Claude Lorius, finalement, le premier forage français fait 900 mètres, c'est le site du Dôme C, là où actuellement il y a une très belle station, très élégante, une station franco-italienne, mais ce forage ne va que jusqu'à 40 000 ans, c'est-à-dire la dernière période glaciaire. Et puis, nos collègues soviétiques forent dans un autre endroit de l'Antarctique, aussi de l'Antarctique de l'Est, en fait un des points les plus froids de cette planète, le site de Vostok. On y a atteint des températures proches de moins 90 degrés l'hiver. Donc, les soviétiques, à l'époque, forment...
On est dans les années 80, hein, début des années 80.
Ouais, c'est toujours l'Union soviétique, c'est la beauté de l'histoire aussi. Ils forment des carottes, mais ils laissent les carottes, en gros, sur le terrain, parce que l'analyse de ces carottes de glace ne les intéresse pas vraiment. Et Claude Lorius, grâce au lien d'amitié qu'il a avec Volodya Kotliakov, a accès à ces carottes, va les chercher, ils vont les chercher, avec Jean-Robert Petit, et nous les ramène, et c'est le début d'une belle aventure, parce que c'est la première fois, aussi bien au Groenland qu'en Antarctique, qu'un carottage glaciaire permet de remonter... Alors, elle couvre l'ensemble de la dernière période glaciaire, jusqu'il y a à peu près 100 000 ans. La période chaude précédente, qu'on appelle le dernier interglaciaire, et puis on remonte à la précédente période glaciaire. C'est-à-dire qu'on a un cycle glaciaire complet, c'était la première fois.
Une mine d'or, hein, dites-vous dans un ouvrage récent que vous venez de faire paraître. On savait donc mesurer dès ce moment-là le gaz carbonique dans les bulles d'air. C'est ça qui est très très important.
On savait à peine, justement. Enfin, on savait. Donc, pour ce qui me concerne, je m'intéressais plus. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut mesurer dans la glace. On peut mesurer la composition de la glace elle-même. Voilà, s'il y a de l'hydrogène lourd, de l'oxygène lourd. Ça nous donne des informations sur la température. Je dirais que c'était un peu mon domaine d'expertise avec d'autres. Mais mes collègues grenoblois, eux, développent la mesure. L'extraction des bulles d'air de ces glaces. Je les redis les noms, Robert Delmas, Dominique Reynaud, Jérôme Chaplaz. Et c'est vraiment, l'intérêt, c'est que c'est pratiquement, bon, il y avait quelques mesures en 80, mais vraiment, c'est la première fois où là aussi, on a un cycle complet à la fois de l'évolution de la température et de l'évolution de, en fait, d'abord du CO2, ensuite du méthane, grâce à Jérôme Chaplaz. Et surprise, eh bien, ces deux effets de serre et climat vont main dans la main sur 150 000 ans dans ce cas-là. Et c'est une véritable découverte, parce que c'était aussi une surprise. Personne ne s'attendait à ce que nous ayons ce lien très fort entre gaz à effet de serre et climat dans le passé.
Et bien entendu, des chiffres, des données absolument incontestables, hein, que vos pairs ont reconnus, les grandes publications scientifiques et le reste. Est-ce que dès cet instant, les politiques ont reçu ces rapports que vous avez dû produire ?
Oui, parce que ces courbes, on appelle les courbes de Vostok, qui montrent que c'est très visuel. On voit vraiment le climat évoluer sur 150 000 ans de façon assez, enfin, disons, la composition de l'atmosphère et le climat évoluer, je dirais, main dans la main. Pendant les périodes froides, il y a moins d'effet de serre, moins de CO2. Pendant les périodes chaudes, il y en a plus. Et ça, c'est très visuel. Et dès à ce moment-là, eh bien, on est au moment où c'est vraiment la période de prise de conscience des décideurs politiques dans les années 80. C'est la création du GIEC. Et en 87, grâce au modélisateur du climat, qui prédisent vraiment que si on continue à émettre des gaz à effet de serre, nous allons vers des réchauffements importants. Mais ces résultats de Vostok participent aussi à cette prise de conscience, c'est très clair. y compris au niveau des politiques, je dirais même peut-être plus au niveau des politiques qui sont très sensibles à cet aspect visuel plutôt que simplement à des calculs de modélisateurs. Et d'ailleurs, dès dans le premier livre d'Al Gore, au début des années 90, ces courbes de Vostok, ouais, elles sont d'ailleurs.
Bien sûr. À préciser quand même, Jean Jouzel, l'effet de serre est indispensable. Sans lui, nous aurions des températures terribles.
Non, nous ne serions pas là, surtout. Nous serions vers moins 18, moins 20 degrés s'il n'y avait que l'oxygène, de l'azote et des gaz rares dans l'atmosphère. Oui, l'effet de serre est indispensable. Ce n'est pas l'effet de serre qui nous assiette, c'est vraiment son augmentation, bien sûr.
Et surtout celle des quatre dernières années, on était sur un horizon 800 000 ans, et là on va parler de 150 ans. Volontairement, nous avons commencé, Jean Jouzel, par toutes ces certitudes scientifiques, parce que c'est bien notre sujet environnement qu'il est dur de convaincre, mais de convaincre tout le monde. Vous avez eu à affronter également, on va parler des politiques un peu plus longuement, mais également des scientifiques dès cette période-là. On connaît peut-être vos relations compliquées avec Claude Allègre, dont chacun se souvient, ancien ministre de la Recherche, qui a toujours pris d'assez haut toutes ces révélations. Et voici ce petit extrait que je voudrais vous faire entendre, je pense que vous le connaissez. Il est surprenant lorsqu'on le réécoute aujourd'hui.
La pollution industrielle dégage des quantités de produits chimiques de toute nature, dont une énorme quantité de gaz carbonique.
Et cette quantité de carbonique se propage dans l'atmosphère.
Dans l'atmosphère, et risque de faire de l'atmosphère une espèce de serre.
C'est un baratin, ça. Il y a l'histoire du CO2, ben on s'est entendu, c'est vrai, on en fabrique beaucoup, mais il y a quand même des correcteurs automatiques.
Effectivement, je me souviens de cette émission et je crois, mais je ne suis pas sûr, que Claude Larius y participait également.
1979, et les deux personnes qui s'affrontent comme ça.
C'est Arun Taziev et Jacques-Yves Cousteau.
Ça, et c'est Jacques-Yves très... Cousteau.
Mais je pense que Claude Larius était également.
Tout ça.
Voilà, donc évidemment, c'est Taziev qui a raison, c'est très clair. Le gaz carbonique est un véritable problème. Bon, il y a eu le rapport du Club de Rome en 70, mais c'est clair que ce qu'on appelle le rapport Charney, un rapport américain en 79, a marqué le point de départ de la prise de conscience. Aux États-Unis et aussi sur la planète, cette prise de conscience se poursuit pendant les années 80, conduit à la création du GIEC en 1988. Et bien sûr, là, on part du côté des scientifiques dans cette progression dans notre connaissance de l'évolution passée du climat et aussi de son évolution future.
Comment expliquez-vous ce scepticisme des scientifiques? Et certains le sont encore sceptiques.
Oui, certains le sont encore. Alors, de scepticisme, il faut voir par rapport à quoi. Alors, il y a peut-être, je dis assez souvent qu'on a quand même des certitudes que peu de gens contestent. Actuellement, peu de gens contestent que nous modifions la composition de l'atmosphère par nos activités. C'est clair que c'est aussi des résultats principaux des carottes de glace. On montre que sur 800 000 ans, les teneurs en gaz carbonique, en méthane, les deux principaux gaz à effet de serre dont nous modifions la concentration dans l'atmosphère par nos activités, en gros, elles étaient nettement en dessous d'aujourd'hui. Il y a 40% de plus de gaz carbonique. Ça a plus que doublé pour le méthane. Donc ça, c'est une certitude que ce sont nos activités qui modifient la composition de l'atmosphère, que ce soit l'utilisation des combustibles fossiles, l'agriculture, l'industrie, bien sûr.
40 milliards, il y a des chiffres, c'est
40 milliards de tonnes de CO2 chaque année.
Tonnes de gaz carbonique de CO2.
Et puis on peut ajouter à peu près 10 milliards d'équivalent CO2 pour les autres gaz.
40 milliards de tonnes, pour bien qu'on comprenne, de CO2, dont 80% sont dus aux combustibles fossiles,
exactement.
10% à la déforestation, et j'avoue que ça m'a surprise, beaucoup aussi à la fabrication du ciment.
Oui, 5%, c'est 10 à 15% à la déforestation, ça dépend des années. Bon, si on continue les constructions avec les matériaux comme on le fait aujourd'hui, ça posera problème dans le futur.
Donc à terme, il faut renoncer au ciment.
Bon, on peut penser à des ciments décarbonés, en tout cas au moins. La construction en bois est aussi extrêmement intéressante. Disons, quand vous chauffez, vous dégagez du CO2. Alors si votre chauffage est fait en plus avec du charbon ou du fioul, évidemment, donc c'est doublement pénalisant en termes d'émissions de CO2.
Ça, c'est un point à qui les activités humaines ne sont plus trop contestées.
Pour tout le monde, je pense.
Sur quel point les scientifiques restent-ils sceptiques?
Alors, disons, que le réchauffement soit une réalité, c'est admis aussi par beaucoup de monde, parce qu'on voit bien qu'on s'incline comment devant les chiffres, et puis il suffit de regarder autour de soi également, et puis l'élévation du niveau de la mer est là pour nous rappeler que l'océan se réchauffe, que les glaces fondent. Mais là où on commence à avoir du scepticisme, où il s'est ancré, et d'une certaine façon il est légitime. Je veux dire que effectivement, ce n'est pas parce que, en gros, en augmentant l'effet de serre, on augmente le chauffage, c'est pas parce qu'on augmente le chauffage que la température augmente, qu'on a établi une relation de cause à effet. La question posée, et qui est posée par les climato-sceptiques, qui nous a été posée, ça c'est justifié, c'est Est-ce que le réchauffement qu'on vit actuellement, quelle est la part d'origine naturelle, quelle est la part liée aux activités humaines? En fait, notre conviction a mis une trentaine d'années à s'établir. Dans le premier rapport du GIEC à cette question, est-ce que l'homme est responsable du réchauffement? Eh bien, on répond, on ne sait pas. Dans le second, on est très prudent, il y a un ensemble d'éléments qui suggèrent une influence perceptible des activités humaines sur le climat. C'est très prudent, mais c'est ça qui va aider à la mise sur pied du protocole de Kyoto. Ensuite, très probablement, plus de 2 chances sur 3 en 2001, troisième rapport, très probablement 90 chances sur 100 en 2007, et puis, de façon quasi certaine, dans le cinquième rapport du GIEC, puisqu'on dit que l'essentiel du réchauffement climatique peut être expliqué par les activités humaines. En fait, on a pris un peu moins d'un degré depuis 50 ans. On peut expliquer ce réchauffement entièrement par les activités humaines. Les causes naturelles, quand on parle de variation d'activité solaire, de variation d'activité volcanique, ne pourraient être expliquées qu'un dixième de degré. C'est normal que la question nous soit posée. Disons, ce scepticisme, ça fait partie de notre science et nous l'avons, je crois, exercé. C'est-à-dire qu'il nous a fallu du temps pour mettre bout à bout ces arguments.
Plus trop ce que veut dire longtemps. C'est sûr, les bouches du métro vont voir pour leur comptant. L'hippodrome, l'île de la Cité, Rouen, Ivry, le Mont-Saint-Aignan verront paître des cétacés et monter des swings d'océan. On trinquera dans l'univers des étoiles givrées en guise du jus de glaçon plein au vert quand auront fondu les banquises. Quand auront fondu les banquises, on verra le dernier pingouin en queue de pie sur les marquises danser sur la tombe à Gauguin. On se rappellera d'hier, de brise glace et d'Atalante, quand le feu plantera sa cuillère au milieu des îles flottantes. Quelques rêveurs diront encore, c'est une ruse, elle se déguise. Souffler la terre fait le mort quand auront fondu les banquises. Alors la colombe de Braque aura chuté de la falaise. Ce jour entassé sur nos barques, on vivra debout sur nos chaises. L'horizon loin de l'horizon, les étoiles seront noyées. Patiner sera plus de saison dans cet arche humain de Noé. Un million d'étés saluera la dernière plage conquise avec des flammes plein les bras quand auront fondu les banquises.
France Culture, matière à penser, Dominique Rousset.
En compagnie de Jean Jouzel, glaciologue qui a rédigé plusieurs des rapports célèbres du GIEC, donc du groupement international sur les experts sur le climat et qui a réveiller un peu les consciences citoyennes et politiques. On va y revenir. On va revenir aussi sur l'océan. Vous avez reconnu, bien sûr, les sons de glace.
Oui.
Très bruyant,
voilà,
la glace.
Une très jolie chanson. Effectivement,
une très jolie
chanson. Très évocatrice pour tous ceux qui s'intéressent à l'avenir des régions de l'Arctique.
Elle est due à Alain Lepresse, effectivement. Voilà. Très bon.
Je voulais simplement dire que quand on parle des rapports du GIEC, j'ai contribué à la rédaction, mais il y a beaucoup, disons, dans un rapport du GIEC, il y a généralement une centaine d'auteurs. Donc, j'y ai contribué, oui.
Bien entendu. GIEC créé en 88. 2008, oui, au sein des Nations Unies. Hein. Vous en avez donc été le vice-président du groupe scientifique pendant plusieurs années, qui a également reçu le prix Nobel de la paix, le GIEC en entier, bien entendu. C'était en 2007. Avec Al Gore, au titre de lanceur d'alerte sur l'urgence climatique. C'est intéressant comme appellation.
Oui, enfin, c'est vrai pour le prix Nobel.
C'était dans le texte du Nobel.
Le prix Nobel de la paix, mais c'est vrai aussi, et ça m'a beaucoup touché. Alors, disons, je ne veux pas dire trop de choses sur les prix, mais nous avons eu la médaille d'or du CNRS avec Claude Lorius pour les travaux, aussi avec, on n'était pas tout seul, dans chaque cas c'est un travail d'équipe, mais sur les travaux sur Vostok, sur les 400 000 ans. Et en fait, j'ai reçu en 2012 le prix Wettlesen avec une américaine, Susan Solomon, et c'était intéressant de voir que dans la citation, il y a à la fois pour sa contribution scientifique aux travaux sur les 800 000 dernières années, mais aussi pour son rôle de lanceur d'alerte. Donc c'était repris et ça m'a effectivement... On peut être scientifique, chercheur, rester dans sa tour d'ivoire, mais je crois, et j'ai toujours pensé depuis, disons que c'est vrai que je suis venu dans cette maison peut-être il y a déjà 35 ans, je m'en souviens.
Maison de la radio.
Oui, voilà. Oui, dans les années 80, j'y venais déjà pour parler de climat. J'ai toujours été intéressé, je pense, je ne sais pas sans le chercher spécialement, mais en tout cas naturellement intéressé par communiquer.
C'est clairement le rôle de l'expert.
Ça fait partie de notre travail, c'est ce que je veux dire simplement. Et donc, lanceur d'alerte, après, une fois qu'on est devant ces résultats, on ne peut pas laisser ces résultats dans un coin et oublier, oui, parce que c'est une des disciplines, c'est pas la seule, hein. C'est une des disciplines où il y a vraiment une très grande proximité entre le travail de recherche, à chaque fois qu'on publie des résultats, on voit bien à chaque rapport du GIEC, par exemple, et finalement, le citoyen, la vie du citoyen, du politique, du décideur politique, et donc, en cela, c'est un travail de recherche passionnant.
Bien sûr. Cependant, Jean Jouzel, c'est le titre de notre série de cette semaine, vous en êtes le premier invité, qu'il est dur de convaincre.
Oui.
Êtes-vous découragé parfois un peu?
Non.
Un peu là de répéter justement depuis si longtemps non, dans les micros les mêmes choses.
Inévitablement, ça va. Je vais évoquer quelqu'un, qui pour moi est important actuellement. Depuis 30 ans, nous avons ces résultats. Nous avons, je crois, il y a une continuité entre un rapport du GIEC et le précédent. Et chaque fois, malheureusement, ça confirme de façon très claire les craintes que nous avons pour le futur de notre climat. Ça confirme les chiffres. J'ai un peu l'impression que pendant 30 ans, nous avons un peu prêché dans le désert. Pas complètement, puisque la Convention climat, mais on n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui, puisque Amy Dahan en parlera. Mais bien sûr, ces négociations, mais quand même, les décideurs politiques enclenchent tout de suite la Convention climat. Mais par rapport au grand public, on n'a pas atteint la cible, alors que... nous avions tous les éléments et je crois dire quand même que maintenant il y a deux choses qui ont changé. C'est clair que le réchauffement climatique, qui pour nous était une certitude, hein, si on continue à émettre des gaz à effet de serre, le réchauffement climatique va se poursuivre. Mais là maintenant il devient perceptible, voilà, à travers des canicules, mais aussi nous avons quand même Greta Thunberg. Et moi je la remercie parce que c'est aussi, il nous aurait fallu une Greta Thunberg, il faut bien le dire, un peu plus tôt.
Vous êtes choqué par les réactions qu'elle suscite auprès des
politiques.
Bien sûr,
je l'ai dit, quand on commence par, disons, des... Bon voilà, sans parler de l'effigie, ouais, je crois, sous un pont actuellement à Rome. Et puis, quand on commence à parler d'irréalistes, d'irresponsables, de fanatiques, de totalitaires, d'idiotes...
Alors qu'elle ne cesse de dire qu'elle parle, répète ce que disent les scientifiques, c'est-à-dire vous-même.
C'est exactement ça. La seule chose qu'elle demande, c'est écouter les scientifiques. Et je crois que c'est très salutaire.
C'est pas très rassurant tout ça, mais vous nous avez dit, pas besoin de faire du catastrophisme, la situation est catastrophique. C'était, je crois, en 2018, mais 2017, un an plus tôt, encore plus inquiétant. Nous n'avons que 3 ans pour agir.
Oui, nous sommes
fin 2019.
Oui, mais ça reste vrai. Mais dès au début de ce siècle, dans le troisième rapport du GIEC, on dit clairement que si on veut rester en deçà de 2 degrés, eh bien, il faut que le pic d'émission des gaz à effet de serre soit atteint au plus tard en 2020. On y est. Bien sûr, il faut agir avant pour ralentir, mais ça revient au niveau mondial, dans les derniers rapports du GIEC, puisque si on veut rester autour de 2 degrés, il faudra diminuer nos émissions... de pratiquement 20-30% d'ici 2030, entre 2020 et 2030, les diviser par 2 pour avoir des chances de rester autour d'un degré et demi. Hein, donc, les choses qu'on a dites depuis 15 ans se confirment. Il faut, oui, il y a d'urgence à agir et agir pas à la marge, à agir de façon extrêmement volontariste et sur tous les leviers dont nous disposons.
Franchement, vous n'y croyez plus aux 2 degrés?
Et 2 degrés,
un et demi, c'est abandonné.
Non, enfin, j'aimerais bien y croire. Je veux dire, je veux y croire d'une façon optimiste. Enfin, disons, ça reste techniquement possible, mais bon, on voit bien les difficultés. Prenons le cas de notre pays. Déjà, on a déjà un peu de retard dans notre pays sur d'ici 2020, mais il faudrait que nous accélérions d'ici 2030. Et c'est d'ailleurs l'objectif de la Convention citoyenne. C'est 150 citoyens qui sont réunis et dont la mission est de faire des propositions pour que les objectifs de la France soient respecté en 2030, diminution de 40% de nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2020, ceci dans un contexte de justice sociale. Donc ça, c'est très important. J'y suis impliqué au titre de la gouvernance. Je suis aussi...
Vous êtes membre du Conseil économique, social, environnemental.
Mental, hein, oui, c'est à ce titre. Je suis, disons, membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat.
Jean Jouzel, je reviens là aux travaux du scientifique. Le vrai test, au fond, de ce réchauffement climatique, il se trouve dans l'océan. On parle beaucoup aujourd'hui de l'océan. Enfin, on parle de l'océan. On l'a peut-être un peu négligé. L'essentiel de la chaleur est stocké dans l'océan.
Voilà, donc une fois...
Expliquez-nous comment ça se passe.
En gros, qu'est-ce qu'on a fait depuis 200 ans ? On a augmenté la quantité d'énergie disponible pour maintenir l'équilibre thermique de l'atmosphère, de l'océan de surface, des glaces et des surfaces continentales. Alors, on augmente le chauffage, en gros, d'à peu près 1%. Ceci en tenant compte du fait qu'il y a, disons, un refroidissement lié à ce qu'on envoie dans l'atmosphère comme aérosol. Voilà, mais c'est vraiment une augmentation de 1% du chauffage. En fait, de ce chauffage supplémentaire, il n'y a que un peu plus de 1% utilisé dans l'atmosphère. L'essentiel de cette chaleur va dans l'océan. Et dans l'océan, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit une élévation du niveau de la mer de plus de 3 mm chaque année. L'océan se réchauffe, il se dilate, ça c'est tout à fait logique, ça joue pour 1 mm chaque année. Et l'essentiel du reste, ce sont les glaciers. Alors les glaciers continentaux, mais aussi le Groenland, l'Antarctique, c'est là où aussi on fait le lien avec les travaux de recherche dans ces régions. On a en fait dans cette élévation du niveau de la mer un double témoignage du réchauffement climatique, le réchauffement de l'océan et la fonte des glaces.
Si l'on avance encore un petit peu sur cette idée de convaincre, j'ai dit que vous étiez né en Bretagne, d'une famille d'agriculteurs, que vous êtes très attaché à cette région française. Mais justement, dans votre petit village, je crois que c'est Janzé, une famille d'irréductibles, agriculteurs, la vôtre, que vous n'avez toujours pas réussi à convaincre, ni votre frère, ni vos parents.
Non, mes parents, non, peut-être les parents, je sais pas. Bon, mes parents étaient très fiers de ce que je faisais. Mes parents, bon, ma mère est décédée en 93, je crois, mais mon père un petit peu avant. Ouais, ça, disons, dans les années 80, on commençait à en parler, mais mon frère, j'ai un frère qui est agriculteur, qui épouse largement les théories de Claude Allègre en disant que ce sont
encore
des...
aujourd'hui.
Ouais, mais enfin, c'est un peu pour me taquiner maintenant. Donc, il a compris quand même que les arguments le fuyaient. Bon, c'est très sympa, on s'entend très bien, mais bon, c'est vrai que, en gros, quand même, je pense que le milieu agricole, il y a eu peut-être un certain retard dans la prise de conscience de la réalité du réchauffement climatique. Alors, on les comprend parce qu'ils nous disent, mais nous, on sait ce que c'est le climat. Ça varie d'une année sur l'autre, ça varie. Il y a des périodes qui sont mieux, d'autres. Et puis, ils sont tellement tributaires du climat dans leur vie de tous les jours que, bon, si on leur dit ça, ils causent toujours. C'est nous qui connaissons les variations du climat. Et c'est un peu pour cela. Mais, en fait, quand même, l'agriculture est déjà impliquée par le réchauffement climatique et risque de l'être de plus en plus. Et il y a un besoin d'adaptation de l'agriculture. Il y a une prise de conscience actuellement qui se fait dans le milieu agricole. Elle a quand même été un peu tardive dans ma famille, mais pas que dans ma famille.
Bien sûr que non. Les rendements agricoles devraient être touchés. Ce qui est irréversible aujourd'hui, on le sait déjà, les récifs coralliens très attaqués, les insectes, les plantes, c'est la question de la biodiversité, les animaux beaucoup... Les rendements agricoles aussi risquent de bouger.
Oui,
ce monde de l'agriculture est très concerné, justement.
Déjà, par exemple, si on regarde les rendements du blé, depuis une vingtaine d'années, ils ont augmenté régulièrement jusqu'au début des années 2000. Et depuis une quinzaine d'années, ils stagnent. Nos collègues de l'INRA, qui s'intéressent directement à ces rendements agricoles, nous disent qu'il y a une part de cette stagnation nettement liée, vraiment liée à l'évolution du climat. Donc, c'est clair, il y a des périodes plus sèches. Donc, on a encore vu
cet été. Pourquoi ? Parce que, les cultures ne sont plus adaptées dans les lieux où elles sont, mais si on les change.
Non, s'il y a il y a quand même moins de précipitations dans certaines régions. Il y a eu aussi, à l'inverse, fin mai, début juin 2016, cette inondation aussi très importante dans le sud du bassin de l'Île-de-France. Ça fait que cette année, là, il y a eu 30% de moins de rendement en blé en France cette année-là, à cause cette fois des inondations. Mais tout ça, c'est quand même lié au climat et donc les rendements agricoles sont fragiles. La viticulture est extrêmement fragile. 1 degré de plus dans le milieu viticole, c'est quelque chose qui a des conséquences très importantes. Je voyais encore
récemment...
Ce n'est
pas toujours facile à faire comprendre.
Mais non, mais vous
parlez d'un millimètre dans l'océan, d'un degré.
Oui, mais donc, alors regardons la nature. Par exemple, justement, Il y a vraiment quelques jours, j'ai quelqu'un qui me montrait, vos collègues d'ailleurs, qui nous parlait des grappes de raisin. Il y a eu une canicule très précoce dans le sud de la France. Et cette canicule, ça s'est traduit par le fait que, disons au tout début, eh bien les grappes de raisin sont très fragiles. En gros, la moitié des raisins sont devenus des raisins confits parce qu'il y a eu une canicule en juin. Et par exemple, déjà actuellement, quand on parle de perte de biodiversité, le réchauffement climatique est la troisième cause de perte de biodiversité. La première étant nos activités, puis la prédation directe de certaines espèces ensuite. Mais le réchauffement climatique est déjà là et ça risque vraiment de... Le rôle du réchauffement climatique sur la biodiversité risque de s'amplifier puisque si on ne faisait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, il y aurait pour la moitié des espèces, la capacité de déplacement est inférieure, la vitesse serait inférieure à la fin du siècle à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Vous voyez, c'est donc très important.
Et ce sera irréversible.
La perte de biodiversité est quelque chose, c'est pas complètement irréversible. On peut espérer que certaines espèces, si on les, bon, bien sûr, on peut les protéger, on peut y faire attention, mais c'est largement irréversible. Et le problème, c'est qu'un réchauffement climatique important exacerbe tous les autres problèmes environnementaux qui n'en ont pas besoin.
Jean Jouzel, pour remonter un petit peu notre morale,
oui.
C'est pas facile pour vous, je le reconnais. Allons un peu vers les solutions. Vous en avez proposé quelques-unes, vous avez été approché par les politiques aussi. On avait le sentiment que la prise de conscience était plus citoyenne que politique, avec toutes les micro-réactions qu'on peut observer ici et là, en tout cas dans beaucoup de pays développés. Alors vous dites avec pas mal d'humour que vous avez politiquement toujours été du côté des futurs perdants. On va pas les citer, soyons gentils. Mais vous avez proposé, c'était avec Pierre Leroutourouc, un pacte finance-climat. Nicolas Hulot n'est pas très loin non plus de ce projet.
Oui.
Pierre Leroutourouc est aujourd'hui élu au Parlement européen d'ailleurs, que vous avez soutenu depuis l'an dernier. Qu'est-ce que c'était ce pacte finance-climat? Parlons-en, c'est une des solutions proposées.
Oui, c'est une des solutions de façon claire. Les mots-clés d'une transition, c'est le mix énergétique qui doit devenir moins carboné, l'efficacité énergétique, la sobriété. L'efficacité énergétique, oui. C'est faire les mêmes choses avec moins d'énergie, c'est bien, mais faire attention à ce qu'on fait, ça serait beaucoup mieux. Je ne pense pas qu'on ira vers sobriété sans solidarité, mais, et c'est là qu'on vient le pacte finance-climat, sans investissement. Il faut investir plus dans la transition énergétique si on veut la réussir. C'est vrai au niveau de la France, c'est vrai au niveau de l'Europe. Nous sommes partis avec Pierre. Alors, Nicolas Hulot a aussi écrit, disons, la préface de notre ouvrage qui est quand même, je crois, le point de départ de ce pacte, ou en tout cas, qui l'a rendu visible pour éviter un choc climatique et financier, un chaos climatique et financier, donc en 2017, je crois. Ce qu'on y dit, eh bien, c'est qu'il faut investir, on part du constat de la Cour européenne des comptes, il faudra investir en Europe 1000 milliards chaque année pour réussir la transition énergétique de façon plus simple dans notre pays.
Ce qui a été investi pour les banques au niveau européen,
on a mis 1000 milliards pour sauver les banques, voilà. On peut bien mettre 1000 milliards chaque année pour sauver le climat, c'est un peu cela.
C'est pas tout à fait les banques, mais enfin bon,
non.
Vous avez
voilà.
raccourci
c'est,
la
c'est,
formule.
Ouais, c'est une formule, bien sûr, mais qui a, je crois quand même, qui a son sens. Ouais, voilà. Mais ce qu'il faudrait faire au niveau français, il faudrait probablement, et c'est un constat qui est largement partagé, il faudrait investir quelques dizaines de milliards d'euros, 40 milliards d'euros supplémentaires chaque année pour réussir la transition énergétique. Donc nous avons proposé au niveau européen, ce qui est important, nous savons que la France c'est 1% des émissions, nous savons que l'Europe ce n'est que 10% des émissions, mais montrons l'exemple. Faisons au niveau français, au niveau européen, ce à quoi nous nous sommes engagés. Pour ça, il faut investir. Création d'une banque européenne pour le climat et la biodiversité, mais aussi d'un fonds européen dédié à la lutte contre le réchauffement climatique, à l'adaptation, à l'aide de l'Afrique, à la recherche également, et tout cela avec un traité qui permettrait de pérenniser ces deux outils. C'est possible. Vous avez mentionné, Dominique, que Pierre Leroutourouc est actuellement au Parlement européen. Il est très actif. Il est un des rapporteurs pour le budget pour son groupe sociodémocrate et il a envie que cette idée de pacte finance-climat soit discutée. Et je l'espère, j'espère qu'elle le sera dans les prochaines semaines ou en tout cas dans les prochains mois.
Qui intéresse-t-elle parmi les dirigeants européens?
Actuellement, les dirigeants européens qui sont les plus sensibles, les Espagnols sont très sensibles, les Allemands, quand on a vu la campagne, beaucoup des listes, certaines des listes, y compris au niveau national, ont soutenu l'idée aussi bien. Enfin, ça va de la liste En Marche, de la liste de Glucksmann, les écologistes, alors sous des formes différentes, mais tout le monde, cette idée d'investir plus sur le réchauffement climatique ou la lutte contre le réchauffement climatique est quelque chose qui a été repris en France par de nombreuses listes. Et je souligne quand même que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est synonyme de dynamisme économique, puisque en France, ce serait entre 600 et 900 000 créations 100 emplois nets d'ici 2050, c'est aussi quand même très attractif pour nos jeunes, parce que c'est de la créativité. Il faut vraiment créer des choses nouvelles, penser à la façon d'être plus sobre et efficace. Voilà, c'est aussi de la recherche. Et donc, c'est pour ça que j'interviens souvent chez les jeunes et je pense que réussir cette transition énergétique avec eux, c'est quelque chose d'enthousiasmant. J'espère consacrer les prochaines années, si bien sûr, disons, pouvoir continuer à dire et à soutenir ces mouvements de jeunes qui veulent s'orienter vers, bien sûr, vers un monde, je dirais, où l'environnement est au centre des préoccupations. C'est pas si facile, mais on voit que ces jeunes se mobilisent de plus en plus et voilà, je les soutiens entièrement.
Ça ne sera pas sans eux, c'est très clair. Vous avez soutenu, je crois, vous soutenez les éoliennes, notamment les éoliennes en mer, et vous regrettez, pourtant elles sont contestées, on va y revenir, mais vous regrettez même que la France n'aille pas un peu plus vite par rapport à ses voisins.
Voilà.
Pourquoi ? Parce qu'on met du temps à accepter un projet, à le mettre en route.
Oui, on met du temps à accepter pour les éoliennes, qu'elles soient terrestres ou les éoliennes.
Mais on les dit peu efficaces.
Non, alors moi je suis pleinement en faveur des éoliennes aussi bien terrestres que les éoliennes en mer. Si, elles sont efficaces, bien sûr. Si on veut que la France réalise son objectif en termes de part de renouvelables, 32% en 2030, eh bien il faut effectivement développer l'éolien terrestre et l'éolien en mer. Donc non, elles sont efficaces. Elles sont efficaces quand il y a du vent. Le prix de l'éolien en mer a pratiquement été divisé par 4 au cours de la dernière décennie, et ça devient compétitif. Je pense que le problème de l'intermittence, on doit y apporter la plus grande attention, mais on avance aussi sur le problème de l'intermittence. Voilà, donc
c'est-à-dire l'intermittence, explique-moi.
Le fait que ce qu'on peut reprocher à l'éolien, c'est d'être intermittent, c'est-à-dire d'abord, il y a une chose, c'est que maintenant, il est intermittent, mais prévisible. On peut prédire, on peut pratiquement prévoir.
Oui, c'est-à-dire, il ne produit pas constamment.
Il ne produit pas constamment, mais on peut pratiquement prévoir une journée à l'avance quand il va produire et quelle quantité il va produire. Et ça, c'est d'une aide extraordinaire. On a maintenant des modèles suffisamment précis pour bien prévoir. C'est intermittent, mais prévisible. C'est vrai aussi pour le solaire. C'est intermittent, mais prévisible. Ensuite, donc, on a besoin d'énergie. C'est quand on en a besoin qu'il faut qu'on ait l'énergie. Ça veut dire qu'on la stocke ou qu'on joue sur la demande. Il y a, disons, on peut demander aux gens de ne pas utiliser moins l'électricité au moment des pointes. Il y a beaucoup d'actions pour agir et même EDF nous dit qu'on peut encore accepter jusqu'à 40% d'intermittents en France sans trop de problèmes sur les réseaux. Donc il y a beaucoup à faire. Ensuite, il faut évidemment avancer sur les programmes de stockage de l'énergie. Il y a des avancées qui se font sur le coût de l'énergie, sur qu'est-ce qu'on fait en fin de vie, aussi bien on peut parler des batteries, on peut parler des panneaux solaires, on peut parler des éoliennes. Il faut prévoir tout ça et c'est vrai aussi si vous intéressez au nucléaire, là, les questions se posent aussi en fin de vie, bien sûr. Tous ces équipements qui devraient nous emmener vers une société sobre en carbone, lorsqu'on les construit, eh bien, et ça demande aussi de l'énergie, que ce soit une centrale nucléaire ou bien des panneaux solaires, ça demande de l'énergie. Il faut vraiment être très attentif à tout leur cycle de vie, mais je crois que c'est la voie et au niveau planétaire, c'est clair qu'il y a un grand potentiel au niveau du renouvelable en termes d'énergie, non simplement d'électricité, mais aussi de chaleur et de mobilité.
Jean Jouzel, vous avez donc beaucoup contribué aux travaux du GIEC, on l'a dit à plusieurs reprises. Le retrait des États-Unis de l'accord de Paris a été un coup dur quand même. Est-ce qu'il a réellement mis à bas les chances de réussir, de mettre en œuvre tout cela? Est-ce que on a dit, un climatologue américain, je crois, Michel Oppenheimer, a regretté en disant qu'il aurait peut-être plus que 10% des chances d'y parvenir sans les Américains.
Ça change tout.
C'est décourageant.
Ça change tout. Effectivement, le succès de l'accord de Paris, c'était en son universalité, c'est-à-dire tous les pays l'ont signé, pratiquement tous les pays l'ont signé.
Et fait l'entraînement sur les autres.
Voilà. Oui. Donc, en fait, parce que les engagements de l'accord de Paris ne sont pas à la hauteur, c'est pratiquement, il faudra les multiplier par 3 entre 2020 et 2030 pour 2 degrés. Par 5 pour 1,5 degré. Et c'est clair que, d'un côté, la décision de Trump, évidemment, ralentit les efforts de la société américaine pour aller vers une société sobre en carbone, c'est un premier point, mais surtout, il interdit dans la pratique de rediscuter de la nécessité de rehausser l'ambition de l'accord de Paris. Il faudrait multiplier par 3 au moins, par 5 si possible, entre 2020 et 2030. Et on voit bien que, alors que les États-Unis auraient pu prendre le leadership au niveau planétaire de la lutte contre le réchauffement climatique, ils s'en retirent. Et donc c'est très difficile. Et moi j'ai quand même l'espoir que quelqu'un reprenne les rênes et remette les États-Unis dans le droit chemin. Je le dis franchement, c'est dans un an maintenant pratiquement, les élections ou à peu près. Et donc, j'espère simplement que le prochain président des États-Unis aura un œil plus attentif vis-à-vis du réchauffement climatique.
Oui, et comprendra mieux surtout les effets sur le reste de la planète, à l'ensemble. Et on parle des migrations, bien entendu. Yes. On parle de zones qui deviendront inhabitables et le reste. Mais vous voyez, Jean-Joël, on espérait remonter un peu l'optimisme et puis on termine sur une note quand même.
Non, je pense qu'il faut. Non, je pense que c'est le moment de l'action et je fais appel à tous. De toute façon, il faut faire le maximum pour lutter contre le réchauffement climatique. Il faut faire le maximum de ce qui est possible. C'est maintenant qu'il faut le faire, année après année. Chaque demi-degré compte. Donc, il faut faire le maximum et il faut aller de l'avant. Il ne faut pas toujours regarder chez les autres. Ce qui m'énerve le plus actuellement, c'est « Ah oui, mais la France, on n'émet que 1% des gaz à effet de serre. » Donc,
bon, à quoi ça sert ? C'est ça, on vous dit un petit peu.
Et ça me déçoit parce que oui, la France n'a aussi que 1% d'à peu près de la population mondiale. Donc, il faut au contraire que la France et l'Europe, nous sommes très européens avec Pierre Larouturou et beaucoup d'autres, bien sûr, je suis sûr des gens qui nous écoutent, que l'Europe fasse son chemin. L'Europe est en train aussi de se fixer comme objectif, je l'espère, la neutralité carbone à horizon 2050. Allons-y et puis jouons plutôt sur la force d'entraînement de ce continent européen qui reste quand même la première puissance économique mondiale. Jouons là-dessus plutôt que de toujours regarder je dirais pleurnicher parce que les autres ne font pas leur chemin. C'est la façon de le faire, c'est vraiment d'avancer en France, en Europe, avec l'espoir que les autres pays suivront. Et j'en suis convaincu, on ne peut pas ne pas réaliser cette transition énergétique. On ne peut pas laisser les jeunes d'aujourd'hui, avec un climat qui nous emmènerait vers plus 5 degrés à horizon dans la fin du siècle, ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui auront à y faire face. C'est 50 à 100 fois plus rapide que ce qu'a connu notre planète entre le dernier maximum glaciaire aujourd'hui en termes de rythme de réchauffement. Et cela a eu des conséquences dans tous les domaines.
La glaciologie, la climatologie se portent bien dans la recherche scientifique aujourd'hui ?
Oui, enfin, moi je pense que oui.
Vous avez de nombreux successeurs.
Oui, justement, j'étais très récemment à une réunion à Grenoble où nous sommes allés jusqu'à 800 000 ans. Il y a beaucoup d'enthousiasme de la communauté internationale, de mes collègues de Saclay, de Grenoble, pour aller vers une aventure qui les emmènerait vers des enregistrements de 1 500 000 ans. Nous avons doublé avec ce forage au Dôme C ce qu'était à Vostok, et puis l'espoir est de le doubler à nouveau et d'apprendre beaucoup de choses sur ces climats au-delà du dernier million d'années qui étaient quand même très différents. Le rythme était vraiment très différent de celui des 400 000 dernières années. Ça va bien et il y a beaucoup d'enthousiasme chez les jeunes.
On vous croit. Merci infiniment Jean-Joël d'être venu nous trouver. On en est très, très heureux qu'il est dur de convaincre. Vous étiez donc le premier invité de cette série que nous poursuivrons demain avec Amy Dahan dont vous avez parlé, spécialiste, historienne des sciences et spécialiste de tout ce processus des relations internationales et des accords internationaux. C'est également important.
Merci Dominique Rousset. Merci beaucoup.
Et merci à notre équipe Anne-Laure Chanel en compagnie de Jean-Michel Bernaud ce soir. Catherine Donnet, Sandrine Chaperon pour la préparation, pour la documentation. Notre stagiaire aussi, Justine Wild, qui assure la mise en ligne de tous les documents qui nous ont servi à préparer cette émission. Bonsoir à tous.